Véroa Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 28 juillet 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington. Idrissa Sebuti a tout d'abord les titres. Au Niger, on ignore toujours le nom du président de la junte deux jours après le renversement de Mohamed Bazoum. La tentative de coup d'État n'est pas définitive, estime la France, dont le président aurait parlé hier à M. Bazoum. En Guinée-Bissau, début d'une cohabitation inédite pour le président Umaro Sissoko Embalo après la rentrée parlementaire. Le Sénégal présente un plan de lutte contre l'émigration clandestine face à une recrudescence meurtrière du phénomène. L'armée de la RDC affirme avoir repoussé une incursion de l'armée rwandaise dans la province du Nord Kivu. Au Zimbabwe, des candidats de l'opposition évincés par un tribunal à moins d'un mois des élections. Ici aux États-Unis, l'ex-président Trump accusé d'avoir voulu soustraire des images de vidéosurveillance à la justice dans l'affaire des documents confidentiels. Coup d'envoi à Kinshasa des 9e Jeux de la Francophonie ce vendredi. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Niger, donc, on ignore toujours le nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, deux jours après le renversement de Mohamed Bazoum. Des manifestations de soutien suivies d'actes de vandalisme ont marqué en fin d'après-midi la deuxième journée de cet autre renversement de régime démocratique dans l'espace sahélien, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
La nuit a été calme à Niamey, avec le couvre-feu instauré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, de 22h à 5h du matin, suite aux scènes de violence et de saccage observées en fin d'après-midi du jeudi. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a instruit dans un communiqué les gouverneurs de région, les préfets et les maires de prendre les dispositions de concert avec les forces de défense et de sécurité pour assurer les personnes et leurs biens. Ces actes de vandalisme ont ciblé à Niamey le siège du parti du président déchu. Il n'y a pas de bilan pour le moment. Deux jours après le coup d'État, le nom du président de la junte n'est toujours pas dévoilé. Sur les réseaux sociaux, des appels à manifestation de soutien au CNSP sont lancés. Elles sont prévues après la grande prière de ce vendredi. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La France ne considère pas comme définitive la tentative de coup d'État mercredi soir au Niger, a déclaré ce vendredi la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Le président Emmanuel Macron a parlé à plusieurs reprises à son homologue nigérien Mohamed Bazoum, séquestré à Niamey, qui lui a dit être en bonne santé, a-t-elle dit aux journalistes en marge de la visite du président Macron en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a exprimé l'espoir que les comploteurs qui ont détenu le président Bazoum entendront les appels de la communauté internationale pour un retour au régime démocratique. Si vous m'entendez parler de tentative de coup d'État, c'est que nous ne considérons pas que les choses sont définitives, a encore déclaré la chef de la diplomatie française, évoquant des possibilités de sortie si les responsables de cette tentative entendent le message de la communauté internationale. La CEDEAO ne reconnaît pas le coup d'État au Niger et affirme que Mohamed Bazoum reste le président légal et légitime du pays. Bagassi Koura.
Dans un second communiqué, depuis le début des événements au Niger, la CEDEAO a dénoncé hier le coup de force. L'organisation sous-régionale dit suivre avec une préoccupation croissante les développements en cours. Dans ce communiqué, la CEDEAO rejette avec la plus grande vigueur la déclaration de prise de pouvoir par les militaires. La CEDEAO dit qu'elle condamne le coup d'État qui, selon elle, est une, je cite, « violation totale des principes démocratiques qui fondent la gestion du pouvoir politique dans l'espace CEDEAO ». Fin de citation. L'organisation exige la libération immédiate du président Mohamed Bazoum, qui reste, dit-elle, le président légitime et légal du Niger. La CEDEAO renouvelle sa ferme opposition à tout changement de pouvoir par des moyens anticonstitutionnels et exige le retour de l'ordre constitutionnel sans délai et sans condition. De son côté, Paris a condamné fermement le coup de force contre les autorités civiles et démocratiques du Niger et a appelé à la libération du président Mohamed Bazoum et de sa famille.
Outre la CEDEAO, le putsch a été vivement condamné par tous les autres partenaires du Niger, qui ont aussi demandé la libération immédiate du président Bazoum. Pour sa part, le Burkina Faso voisin, dirigé par un régime issu de deux coups d'État en 2022, a dit souhaiter une coopération plus étroite. Le point avec Michel Joseph.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit avoir pu parler avec M. Bazoum mercredi pour lui assurer clairement que les États-Unis le soutenaient. Les États-Unis comptent environ 1100 soldats dans le pays. La France a condamné fermement le coup de force contre les autorités civiles et démocratiques au Niger et l'Allemagne a demandé à l'armée de retourner dans ses casernes. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu'alors allié des pays occidentaux, devient le troisième pays du Sahel, miné par les attaques de groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda, à connaître un coup d'État depuis 2020. Le Mali et le Burkina Faso se sont notamment tournés vers la Russie après avoir exigé le départ des soldats français de leur sol. La Russie, où se tient actuellement le second sommet russe-Afrique, a de son côté souhaité la libération rapide de M. Bazoum. L'ONG Human Rights Watch appelle les forces militaires responsables du coup d'État au Niger à rétablir sans tarder les droits humains fondamentaux. Les opérations humanitaires de l'ONU sont suspendues en raison du coup d'État, alors que le pays fait déjà face à une situation humanitaire complexe, a annoncé jeudi l'organisation. Selon OCHA, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire au Niger est passé de 1,9 million en 2017 à 4,3 millions en 2023. Les militaires nigériens ont accusé la France, qui a 1500 soldats au Niger, d'avoir enfreint la fermeture des frontières en faisant atterrir un avion militaire à l'aéroport international de Niamey. Ils ont appelé une fois pour toutes au respect strict des dispositions prises par la junte. Ils ont également annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis politiques.
Les trois membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU, Gabon, Ghana et Mozambique, ont demandé pour ce vendredi des consultations à huis clos sur la situation au Niger. Selon Margaret Bisher, la correspondante de la VOA à l'ONU, l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield est pour la prise de mesures au Conseil de sécurité pour une désescalade, la protection des civils et le respect de l'ordre constitutionnel. Selon le porte-parole américain Nate Evans, Mme Thomas-Greenfield a parlé hier au président Mohamed Bazoum pour lui exprimer son ferme soutien à ce leader démocratiquement élu. Elle a réitéré la très ferme condamnation par les États-Unis de toute tentative de prendre le pouvoir par la force, ainsi que leur ferme soutien à la démocratie au Niger.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée-Bissau, les 100 députés de la nouvelle Assemblée nationale, dominée par l'opposition, ont été investis hier, ouvrant une cohabitation inédite pour le président Umaro Sissoko Embalo. La coalition Païtera-Ranka du PAIGC, qui a longtemps dominé la politique nationale, a obtenu lors des législatives de début juin la majorité absolue avec 54 sièges. Païtera-Ranka a signé un accord politique avec le PRS qui a gagné 12 sièges pour pouvoir entreprendre des réformes comme la révision de la Constitution. Le MADEM G15, la famille politique du président, n'avait remporté que 29 sièges, une large défaite imputée, selon des observateurs, à des dissensions internes dans ce parti et à l'incapacité du président à résoudre le problème de la chute du prix de la noix de cajou, source de revenus importante de la population. C'est la coalition Pai-Terra-Ranka qui a gagné les législatives, donnant-leur la possibilité de gouverner pendant 4 ans. C'est cela la démocratie, avait déclaré M. Mbalo le 19 juillet. Le Sénégal, confronté à une recrudescence meurtrière de l'émigration clandestine, a présenté hier un plan de lutte contre le phénomène sur 10 ans, devant être financé par le budget national et des partenaires extérieurs. Jacques Aristide.
La stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière vise à réduire drastiquement le phénomène à l'horizon 2033, a déclaré le ministre sénégalais de l'Intérieur lors de la présentation du document. Il apparaît nécessaire de démultiplier les initiatives et de nous fixer de nouveaux objectifs afin d'améliorer nos résultats, a ajouté Antoine Félix Abdoulaye Diom, saluant les acquis appréciables déjà obtenus dans la lutte contre ce phénomène dangereux. Le plan se décline sur 5 axes. La prévention, la gestion des frontières, des mesures de répression contre les convoyeurs, des mesures d'aide et de protection, le retour et la réinsertion des migrants. Le coût total du dispositif n'a pas été révélé. L'afflux migratoire vers les Canaries, porte d'entrée vers l'Europe par l'océan Atlantique, connaît un net regain d'activité. Plusieurs drames ont été répertoriés ces 2 dernières semaines au Sénégal, alors que, selon les autorités tunisiennes, environ 900 migrants, dont une majorité venue d'Afrique subsaharienne, qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe, sont morts noyés depuis le début de l'année.
L'armée de la République démocratique du Congo affirme avoir repoussé hier une incursion de l'armée rwandaise dans la province du Nord Kivu, incursion qui visait, selon elle, à acheminer des renforts et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de la RDC. Dans un communiqué diffusé dans la soirée, elle a affirmé que les FARDC vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup et exercer le droit de poursuite. Ce communiqué du général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, ne reprend toutefois pas une information rapportée par des sources congolaises locales selon lesquelles un soldat rwandais aurait été tué lors de cet accrochage. Des éléments des FARDC chargés de la sécurité des frontières ont repoussé les militaires rwandais qui se sont repliés dans leur pays, lit-on dans le communiqué. Sollicité par l'AFP, l'armée et le gouvernement rwandais n'avaient pas réagi jeudi soir. Au Zimbabwe, à moins d'un mois des élections, un tribunal a disqualifié hier tous les candidats de l'opposition aux législatives dans la 2e ville du pays, traditionnellement considérée comme un bastion de l'opposition. Eric Manirakiza.
Un juge de la haute cour de Bulawayo a estimé que les candidats de la coalition des citoyens pour le changement, ainsi que 3 autres de petits partis de l'opposition, avaient déposé leur candidature en retard. Nous condamnons cette tentative à peine voilée d'imposer des candidats aux citoyens de Bulawayo. C'est une tache sombre sur notre démocratie, a déclaré le porte-parole de l'opposition. La commission électorale du pays n'était pas de cet avis, avait demandé au tribunal de classer l'affaire, initiée par plusieurs électeurs soupçonnés d'être des partisans de la ZANU-PF. Cette décision ouvre la voie au parti au pouvoir, la ZANU-PF, qui pourra s'emparer des 12 circonscriptions de Bulawayo lors du scrutin du 23 août. Comme la capitale Harare, la ville du sud-ouest est un bastion de la coalition des citoyens pour le changement qui avait présenté 12 candidats, tous mis hors course par le tribunal.
Vladimir Poutine, le président russe, a offert un hélicoptère à son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, a annoncé le ministère zimbabwéen de l'information sur les réseaux sociaux, alors que M. Poutine cherche à obtenir le soutien de dirigeants africains réunis pour un sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg. Jeudi, M. Poutine a cité le Zimbabwe parmi les 6 pays africains qui recevront gratuitement des céréales de la Russie après que le Kremlin s'est retiré de l'accord permettant aux exportations de céréales ukrainiennes de transiter par la mer Noire. Ici aux États-Unis, les procureurs fédéraux ont alourdi jeudi les charges pesant sur l'ex-président Donald Trump dans l'affaire de sa gestion négligente de documents confidentiels pour laquelle il est déjà inculpé, lui reprochant d'avoir essayé de supprimer des images de vidéosurveillance qui intéressaient les enquêteurs. Ces nouveaux chefs d'accusation viennent épaissir un dossier pour lequel un procès fédéral est prévu en mai 2024 en Floride, en pleine primaire républicaine, pour lequel Donald Trump est favori. Ces nouvelles accusations, a répondu l'équipe de campagne de M. Trump, ne sont qu'une nouvelle tentative sans fin de l'administration Biden pour harceler son prédécesseur. Le procureur spécial en charge de l'affaire, Jack Smith, sait qu'il n'y a rien dans le dossier, ajoute le communiqué. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon la Direction générale des douanes du Cameroun, le droit de transit du pétrole tchadien via le pipeline Tchad-Cameroun a généré 27,1 milliards de francs CFA au cours du premier semestre 2023. Le Cameroun perçoit une redevance de 1,32 dollars sur chaque baril de pétrole tchadien qui transite sur son territoire. Le taux du droit de transit devrait être réévalué le 1er octobre. Les nouvelles technologies pour soutenir la croissance économique, c'est le thème de la dernière journée du Grand Salon de l'agro-business et du Digital d'Afrique 2023 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Des panels sur les technologies de l'information et de la communication montreront comment les TIC favorisent les échanges commerciaux et stimulent la création d'emplois innovants. Le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique et Impact Her organise une formation en ligne dans les domaines du numérique, de l'alphabétisation financière et de l'entrepreneuriat. La phase pilote de la formation, qui débute le mois prochain, s'est déroulée en mai et juin avec 106 lauréates représentant 54 États membres de l'Union africaine et la diaspora.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les Jeux de la francophonie commencent aujourd'hui à Kinshasa.
Oui, du 28 juillet au 6 août, près de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une trentaine de pays prennent part à ces 9e Jeux de la francophonie qui combinent épreuves sportives et culturelles. Ces Jeux concernent des jeunes de 18 à 35 ans. Ils vont s'affronter dans 9 compétitions sportives et 11 concours culturels. Ce sont les Jeux de l'espoir et de la solidarité, répètent les autorités congolaises, qui parlent de leur hospitalité et le côté joyeux de la vie à Kinshasa. Environ 4500 policiers seront déployés en ville. Une entreprise privée est chargée de la sécurité des aires de jeu et la garde républicaine est appelée en renfort.
Basketball débute ce vendredi de l'Afro-Basket Dame à Kigali.
Cette 28e édition va se dérouler du 28 juillet au 5 août à la BK Arena dans la capitale rwandaise. 12 équipes réparties dans 4 groupes de 3 se lancent dans la course au trophée. À suivre ce vendredi, Nigeria, RD Congo, le Mali affronte l'Ouganda, le Rwanda fait face à la Côte d'Ivoire et le Cameroun défie le Mozambique. Pour rappel, les premiers de chaque poule se qualifient directement pour les quarts de finale. Les deuxièmes et troisièmes des différents groupes s'affronteront dans un tour qualificatif pour les quarts de finale le 1er août.
Première victoire africaine au Mondial féminin, le Nigeria surprend l'Australie.
Les Super Falcons ont battu hier les Australiennes co-hôtes du Mondial 3-2. Ce sont pourtant les Matildas qui ont ouvert le score. Uchenna Kanu, Osinachi Ohale et Aziza Oshoala sont les buteuses côté nigérien. Les Nigériens dorénavant en tête de la poule B affronteront l'Irlande et n'ont plus besoin que d'un match nul pour aller en 8e de finale. L'Australie, qui aurait pu directement se qualifier avec une victoire, doit maintenant absolument s'imposer contre le Canada pour passer en 8e. Pour sa part, le Portugal a décroché le premier succès de son histoire dans un mondial féminin, le Vietnam 2-0 dans le groupe E.
Merci Yacouba. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoubia. quelques dossiers du jour pour terminer. Au Burkina Faso voisin, le coup d'État au Niger suscite beaucoup de commentaires. Certains pensent que ces coups d'État sont le résultat d'une mauvaise gouvernance, mais d'autres estiment que ces putsch ne profitent qu'à l'armée. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À Ouagadougou, tout le monde a attendu le dénouement après une journée de confusion jusqu'à la confirmation de la fin du règne de Mohamed Bazoum. Les citoyens lambda ont son opinion sur ce coup de force. Boniface Agbefa, un religieux.
C'est un problème de jeunesse. C'est parce que les jeunes ne comprennent pas en réalité la politique. Voilà, on soutient, peut-être on soutient des gens sans savoir en réalité leur plan réel pour le pays. Et bon, au final, déjà quand ils sont au pouvoir, on voit que bon, et ce n'est pas ce qu'ils disent qu'ils font. Et c'est ça qui amène des révoltes.
Pierre Kabore, étudiant en économie.
En tant que Burkinabé, bon, les coups d'État, ce n'est pas quelque chose qu'on doit cautionner, mais nous voyons que l'Afrique a besoin de ça, voilà, pour pouvoir sortir du sous-développement. On ne cautionne pas, mais si les initiateurs ont les mêmes objectifs, il n'y a pas de problème. Même s'il ne s'agit pas de prendre le pouvoir et puis foutre la merde, il faut travailler, voilà, pour que la population soit vraiment épanouie, pour que la sécurité revienne dans nos états.
Mais les analystes et observateurs pensent tout le contraire. Les bourrés crépins zanzé espèrent en communication et sécurité, analyse politique.
C'est quasiment le printemps noir pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique francophone. Et puis les populations sont engagées dans une dynamique de souveraineté que moi je vais mettre souverainiste. Et partant de là, les militaires aujourd'hui, et professionnellement aguerris ou non, amateurs ou pas, ils sont à un moment donné assoiffés et profitent maladroitement de la situation, de cette quête effrénée des populations, de la paix, de la sécurité, pour justifier parfois l'injustifiable. Une armée est là pour assurer l'intégrité du territoire, pour défendre coûte que coûte, vaille que vaille, des autorités, des chefs militaires comme des chefs politiques qui sont élus à leur place. Il n'appartient pas à un militaire de se lever et de contrecarrer. Beaucoup pensent aujourd'hui que Ariva va disparaître. Beaucoup pensent peut-être que les bases militaires nigériennes vont disparaître. Donc vous avez vu tout de suite maintenant qu'il y a une concertation des chefs militaires nigériens pour sortir un communiqué. Et j'ai été regretté de voir cela. Et je suis sûr et certain que les enjeux seront beaucoup plus chaotiques pour le peuple nigérien que ce qu'ils ne pensent.
En attendant de connaître le nouveau chef de la junte au Niger, pour l'heure, les autorités de la transition n'ont fait aucun commentaire sur ce tout dernier coup de force en Afrique de l'Ouest. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Tchad, la situation au Niger est aussi suivie avec beaucoup d'attention. Pour certains, c'était prévisible parce que le président déchu est, et je cite, « un pion de la France ». Fin de citation. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
Communiqué numéro 1. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez.
Le coup d'État est maintenant consommé. Le porte-parole des putschistes Adamou Abderrahman mettant fin à la confusion qui a régné toute la journée du mercredi 26 juillet au Niger. Un groupe de 10 officiers a décidé de tourner définitivement la page du président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu. La réaction des Tchadiens dans les rues de N'Djamena au micro de VOA Afrique.
Comme on le voit partout en Afrique, on connaît déjà la cause. Les citoyens, leur besoin n'est pas satisfait, à mon avis. J'ai dit ce qu'ils ont fait, c'est normal.
J'encourage pas les coups d'État, parce que les coups d'État, c'est fait que faire reculer les pays en arrière. Ça n'avance pas les pays, parce que l'argent que les gens gaspillent dans les paiements des armes, c'est quelque chose qu'ils devaient faire autre chose avec.
Pour Abderrahmane Gasnabaï, homme politique et acteur de la transition tchadienne, la place des militaires n'est pas au pouvoir.
Moi, je suis démocrate jusqu'au bout des hommes. Par principe, je ne peux pas soutenir un coup d'État. Mais partout, les militaires veulent s'assurer et prendre le pouvoir par la force, et je crois que ce n'est pas leur rôle. Le président Mohamed Bazoum a été élu vraiment d'une manière démocratique. Et c'est dommage que les militaires viennent rompre cette procédure démocratique et qui devrait nous contaminer au Tchad, hélas.
Le président du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, Sosthène Bernoulli, estime que ce qui est arrivé au président Bazoum est une résultante de ce que les peuples en ont de la politique française en Afrique.
Au jour d'aujourd'hui, Areva exploite l'uranium au Niger. Le Niger sert de base de l'armée française pour intervenir dans le proche Moyen-Orient et même au-delà. Et donc, les gens en sont arrivés à bouder les dirigeants qui servent de pions à la politique occidentale. Et donc, l'armée républicaine, quand ça ne marche pas, l'armée siffle la fin de la récréation, c'est ce qui a été fait.
Franck Makindar, membre de l'Observatoire des droits et libertés au Tchad, a un avis totalement opposé, car pour lui, ce coup d'État est une réponse de la France à la démocratie qui était en train de s'installer au Niger.
Il y a eu un transfert pacifique de pouvoir et le Niger est en train de se démocratiser. Vous savez, la France a perdu le Mali, la Guinée, la Centrafrique, il ne lui reste que le Niger et le Tchad. Donc, il va falloir troubler le pouvoir au Niger pour permettre de contrôler parce que la présidence au Niger est déjà acquise au peuple et le président obéit aux besoins du peuple et n'obéit pas aux besoins de l'Occident. C'est un message. L'armée nigérienne a fait une sale besogne qui n'est pas sa mission, mais et ça, il faut que les officiers généraux du Niger se ressaisissent. Parce qu'ils veulent retarder l'Afrique.
Après un concert de condamnation de ce tout dernier coup d'État en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne, tous à l'unisson, appellent à la libération immédiate du président déchu, André Kodouma Dingar Ndjamena, pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, conférence de presse à l'occasion de la cérémonie de lancement des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Elle a été animée par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya et des membres du Comité international de la Francophonie. Le point avec notre envoyé spécial Roger Muntu.
Le 9e jeu de la francophonie rassemble près de 3000 jeunes sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays. Ils prennent leur envol ce vendredi à Kinshasa. Pour l'État congolais, ce défi est de taille car il est confronté à des difficultés bien connues en raison du chaos et des conflits dans sa partie est. Le tout sur fond d'année électorale, on doit le rappeler. Ici, en tout cas, nous nous sommes promenés en ville, partout, pour voir, et ils ont, les Congolais disent la même chose. Initialement attribué à la RDC en 2019, ces Jeux auraient dû se dérouler en 2021, 4 ans après ceux d'Abidjan. Toutefois, ils ont été reportés à cause de la pandémie de Covid-19, puis à nouveau en 2022 en raison du manque de préparation. En vue d'accueillir dignement les athlètes, le pays a dû investir des dizaines de millions de dollars pour rétablir ou construire de nouvelles installations à Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde, qui compte plus de 15 millions d'habitants. Ce projet représente un enjeu crucial pour le pays et sa jeunesse. Nous avons d'ailleurs eu l'opportunité de poser cette question au porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui souligne que ces jeux symbolisent l'espoir et la solidarité.
Les dispositions ont été prises, mais écoutez, c'est une compétition. Les meilleurs peuvent peut-être venir du Maroc ou de la Tunisie ou du Liban, mais l'essentiel pour nous, c'est d'avoir offert ce cadre et d'avoir préparé nos athlètes à des victoires présentes et à des victoires futures.
Les autorités mettent en avant l'hospitalité congolaise et les aspects festifs de la ville à Kinshasa, souvent qualifiée de capitale de la rumba et de l'élégance. Jusqu'à peu, les préparatifs semblaient considérablement en retard, laissant planer des doutes sur la tenue des Jeux. En juin, certains pays ont même réduit leur participation, voire annulé leur présence, citant des raisons de sécurité et de santé. Un sujet de débat a également émergé concernant la présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIAF, Louise Mushikiwabo, une ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères. La relation tendue entre la RDC et le Rwanda a soulevé des interrogations quant à sa participation à la cérémonie d'ouverture. On doit le rappeler ici, jusqu'au 6 août, les Jeux offriront une série de 9 compétitions sportives et 11 concours culturels. Le volet sportif comprendra notamment le football masculin moins de 20 ans, le basket féminin 18 à 25 ans, l'athlétisme, le paraathlétisme, le cyclisme sur route, les luttes libres et africaines, le judo, tennis de table. Du côté culturel, les disciplines compétition engloberont la peinture, la sculpture, la photographie, la chanson, la danse, la création numérique, la littérature, les contes et beaucoup plus, les marionnettes géantes pour ne pas oublier, et hip-hop. Roger Muntu, VOA Afrique, Kinshasa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebouguia, la mise en nom de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter, maintenant X, et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Thank you.